à Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition de 17h30, temps universel du vendredi 24 janvier 2020. Abdourahmane Dia à la présentation, voici les titres. 6 opposants rwandais condamnés de 7 à 12 ans de prison pour complot contre le gouvernement. Premier anniversaire de l'investiture de Félix Tshisekedi comme président de la RDC.
Face aux questions de corruption et d'impunité, il est plus que temps que les chefs de l'État convoquent les États généraux de la lutte contre la corruption et les pillages des ressources naturelles.
Le coronavirus continue de se propager. Le dernier bilan fait état de 26 morts. Le président Donald Trump participe ce vendredi à une marche annuelle de militants contre l'avortement. Toujours aux États-Unis, poursuite du procès en destitution du président américain. Ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports, mais tout d'abord le journal. Investi il y a un an, jour pour jour, le nouveau président congolais Félix Tshisekedi a lancé des appels au désarmement des groupes armés congolais. Il a déclaré qu'il était prêt à mourir pour la paix. Le point avec Irénée Hermanoumbo.
Nous sommes prêts à accepter l'appel du chef de l'État, a confié un porte-parole du groupe Unduma Défense du Congo Rénové, qui a transmis son offre de dialogue à l'État congolais mi-janvier avec 5 groupes alliés. La première des conditions est d'identifier ensemble le sort réservé aux groupes armés étrangers qui opèrent dans l'est du pays. La situation dans le territoire montagneux de Massissi est alarmante. On y rencontre des civils traumatisés par les violences, affamés, entassés dans un camp insalubre. Une épidémie de rougeole et de choléra a frappé les déplacés. La fin de l'année 2019 a été éprouvante dans le Massissi, tout comme plus au nord à Beni, doublement victime d'Ebola et des tueries de civils en novembre-décembre. Plusieurs unités de traitement anti-choléra ont été ouvertes par l'ONG Médecins Sans Frontières, qui parle de 520 cas et 2 décès. Au total, 585 000 déplacés survivent dans ces territoires montagneux, estime MSF. Un an après sa prise de fonction, le président Félix Tshisekedi a encore beaucoup de travail à faire pour pacifier l'est du Congo et surtout élever le niveau de vie de plusieurs millions de Congolais qui vivent dans la misère dans un vaste pays qualifié parfois de scandale géologique à cause de ses immenses richesses.
Au Rwanda, 6 personnalités de l'opposition ont été emprisonnées pour des peines allant de 7 à 12 ans. Ils ont été reconnus coupables d'avoir formé un groupe armé illégal et d'avoir comploté contre le gouvernement. Le point avec Ekiabadou.
Selon la radio Rwanda, une chaîne nationale, les 6 condamnés seraient Boniface Twagarimana, un vice-président des FDU Ingihingi, qui avec un associé a reçu 10 ans. 2 autres co-accusés ont été condamnés à 12 ans alors qu'une peine de 7 ans a été infligée à d'autres. Les 6 inculpés appartenaient au parti anciennement dirigé par Victoire Ingabire, opposant du président Paul Kagame. Gatera Gashabana, l'avocate des 6, a déclaré qu'elle fera appel. Ingabire elle-même a purgé 6 ans sur les 15 ans de prison sur la base des mêmes accusations de complot en vue de former un groupe armé pour déstabiliser le gouvernement avant d'être libérée en 2018. Elle a déclaré que ces accusations sont soutenues uniquement par des motivations politiques. Les groupes de défense des droits de l'homme dénoncent l'attitude du gouvernement envers l'opposition. Le gouvernement, de son côté, continue de nier ces accusations.
La justice angolaise soupçonne Isabelle dos Santos, la fille de l'ancien président, d'avoir investi au Portugal des fonds détournés illégalement de son pays. C'est ce qu'a affirmé ce vendredi à Lisbonne le procureur général de la République angolaise qui a demandé la coopération des autorités portugaises pour mener son enquête. L'Angola pense que l'argent utilisé pour les affaires faites par Isabelle dos Santos au Portugal est sorti d'Angola de façon illicite, a déclaré Elder Pitagros dans un entretien à la télévision publique portugaise RTP. Des combattants du groupe Boko Haram ont tué 5 personnes, en ont enlevé plusieurs autres dans le nord-est du Nigeria. Ils ont ouvert le feu sur des civils hier près de la ville de Dikwa, à 90 km de Maïdougouri, dans l'état de Borno, bastion de l'insurrection. Dikwa abrite plus de 70 000 personnes déplacées par les violences, vivant de l'aide humanitaire dans plusieurs camps. Au Bénin, arrestation d'un des principaux leaders du mouvement qui a récemment conduit à des affrontements entre forces de l'ordre et membres de l'opposition et en fait 2 morts parmi les civils à Savé dans le centre du pays. Faletti Biou Ayodele Prudence, surnommé général civil Faletti, était en cavale et activement recherché depuis la diffusion de vidéos largement partagées sur les réseaux sociaux. Dans ces vidéos, il appelait la population à se soulever et exiger le départ des militaires de Savé, le bastion de l'ancien président Boni Yayi. Le président guinéen Alpha Condé devrait fixer sous peu la date d'un référendum constitutionnel qui pourrait être couplé avec les législatives prévues le 16 février. C'est ce qu'a indiqué un correspondant de l'AFP, une source proche de la présidence sous couvert de l'anonymat. Le Conseil des ministres a proposé hier au président de fixer une date appropriée pour la tenue du référendum. Le calendrier fera l'objet d'un décret présidentiel. « Nous allons vers un couplage de législative et du référendum », s'insurge pour sa part l'ex-premier ministre Sidya Touré, un des chefs de l'opposition. Plusieurs milliers de manifestants ont défilé ce vendredi à Alger pour la 49e semaine consécutive, une mobilisation qui persiste malgré un certain essoufflement. « On ne s'arrêtera pas, soit vous partez, soit on continue », scandait la foule, encadrée par un important dispositif policier. Ils disent que le Hirak est en baisse, mais en réalité, le nombre n'a aucune importance. Il y a un an, on n'était pas nombreux, mais on a quand même empêché le 5e mandat présidentiel de Bouteflika, a indiqué Hamid, un fonctionnaire de 32 ans.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, Donald Trump est le premier président américain à participer à la grand-messe annuelle des militants anti-avortement ce vendredi, appelée la Marche pour la vie sur les pelouses du National Mall, ici à Washington. Le point avec Nathalie Barche.
Donald Trump a débuté sa journée en citant dans un tweet Jane Mancini, présidente du mouvement organisateur de ce grand rendez-vous. « Nous n'avions jamais vu un président des États-Unis venir en personne à la marche pour la vie. Maintenant c'est fait, à tout à l'heure », Jane a-t-il ajouté. Après le discours présidentiel, le cortège devait remonter l'artère du Mall pour rejoindre le bâtiment de la Cour suprême. L'an dernier, M. Trump avait promis aux manifestants par écran géant interposé d'opposer son veto à toute législation affaiblissant la protection de la vie humaine. La manifestation est organisée tous les ans autour du 22 janvier, date anniversaire de l'arrêt emblématique de la Cour suprême Roe versus Wade, rendu en 1973 et légalisant l'interruption volontaire de grossesse aux États-Unis.
Par ailleurs, 6 personnes ont été tuées ce vendredi dans une fusillade dans le sud-ouest de l'Allemagne, selon plusieurs médias. La fusillade dont l'auteur présumé a été arrêté s'est produite à la mi-journée dans la région du Bade-Württemberg. Plusieurs personnes ont également été blessées au cours de cette fusillade, selon la police locale qui a déployé sur place un important dispositif. Les droits humains de centaines de migrants d'Amérique centrale arrêtés hier par les forces mexicaines ont été respectés, selon le président mexicain Andrés Manuel López Obrador. On leur a offert un abri, du travail, tout. Heureusement, les droits de l'homme ont été respectés, a-t-il déclaré lors de sa conférence de presse matinale quotidienne. Plusieurs centaines de migrants ont franchi hier sans autorisation la frontière avec le Guatemala. Près d'une dizaine de villes en quarantaine, des dizaines de millions de personnes bloquées. La Chine emploie les grands moyens pour tenter d'enrayer la nouvelle épidémie de coronavirus, mais ces mesures sans précédent pourraient s'avérer insuffisantes. Le point avec John Lindon.
Jeudi, les autorités chinoises ont pris la décision inédite d'interdire tous les trains et avions au départ de la ville de Wuhan, épicentre du virus de la famille du SRAS, le syndrome respiratoire aigu sévère qui a déjà fait 26 morts et contaminé plus de 800 personnes. Autocars et bateaux sur le Yangtze, le long fleuve qui arrose Wuhan, ont reçu l'ordre de s'arrêter. Les autoroutes ont été bloquées et les transports publics suspendus dans l'agglomération de 11 millions d'habitants et 9 villes voisines. Au total, plus de 40 millions de personnes sont concernées. Ce dispositif exceptionnel a peut-être été mis en place trop tard, avertissent les experts. Un grand nombre d'habitants ont déjà quitté la région à l'approche des vacances du Nouvel An chinois fin janvier, période où des millions de personnes voyagent pour de retrouvailles familiales. Le nouveau coronavirus en Chine risque de provoquer de graves conséquences économiques si sa propagation entraîne une panique, a mis en garde ce vendredi le Conseil mondial des voyages et du tourisme. Une femme sexagénaire revenue de Wuhan le 13 janvier et habitant Chicago a été infectée, a révélé aujourd'hui le Centre de contrôle et prévention des maladies, ce qui fait le second cas aux États-Unis.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Nanit Talani nous présente la Minute Éco.
L'Éthiopie cède 75% de son droit sur l'utilisation des eaux du Nil bleu à l'Égypte et au Soudan. La cession découle de l'accord de principe de l'Éthiopie de libérer annuellement en moyenne 37,5 milliards de mètres cubes d'eau sur le débit annuel moyen total de 50 milliards de mètres cubes d'eau du fleuve. Pour certains observateurs, c'est une victoire énorme et historique pour les pays bénéficiaires aux dépens de l'Éthiopie qui a compromis son projet du grand barrage de la Renaissance en réduisant de 20% sa capacité de production d'énergie. Le Zimbabwe et le Rwanda travaillent au renforcement de leurs engagements économiques. Leurs échanges commerciaux ont chuté à 4 000 $ en 2018 contre 90 000 $ en 2014. Les deux pays ont lancé la conférence sur le commerce et l'investissement Zimbabwe-Rwanda qui se tiendra à Kigali en mars pour faciliter leurs affaires. La conférence offrira aux entreprises zimbabwéennes la possibilité d'augmenter leurs exportations vers le Rwanda et de contribuer aux recettes du pays. Pour terminer, au Ghana, Golden Star s'attend à produire près de 210 000 onces d'or en 2020 dans ses mines Wassa et Presteya, contre 204 000 onces d'or l'an dernier. Pour atteindre cet objectif, la compagnie minière compte stimuler la production à la mine Presteya, son actif le moins performant, pour y produire 45 000 onces d'or pour un coût d'environ 1 850 $ l'once.
C'est l'heure des sports avec Bagassi Koura. Bagassi, bonsoir.
Oui, bonsoir Abdourahmane, bonsoir à tous.
Cyclisme tropical Amissa Bongo, l'Algérien Youssef Regigui s'impose à Bifoune lors de la cinquième étape.
Oui, une victoire au sprint de cette cinquième étape. Le coureur déjà deuxième lors de la deuxième étape mardi à Oyem l'a emporté au sprint devant son compatriote Yacine Hamza, le Français Emmanuel Morin et les Italiens Riccardo Minali et Attilio Viviani. Neuvième de l'étape du jour du Tropical Amissa Bongo, l'Érythréen Nathanael Tesfasion garde la tête du classement général mais ne possède plus que 6 secondes d'avance sur Morin, alors que Jordan Lefasseur est toujours deuxième à 2 secondes. L'Algérien Regigui, grâce à sa victoire, remonte pour sa part à la quatrième place du général, à 10 secondes du maillot jaune.
En football, Ligue des Champions, deux rencontres au programme ce soir.
Oui, le Wydad Casablanca affronte l'USM Alger. Le Zamalek d'Égypte accueille les Corbeaux du TP Mazembe. Ces deux matchs sont comptants pour la cinquième journée des éliminatoires de la Ligue des Champions.
Coupe du Roi, le FC Barcelone reçoit Leganés, le Real Madrid à Saragosse.
Oui, le Real Madrid a hérité du Real Saragosse au club de deuxième division en huitième de finale de la Coupe du Roi, tandis que le FC Barcelone devra se défaire d'une équipe de Liga, Leganés, d'après le tirage au sort effectué ce vendredi. Difficile vainqueur 2-0 d'Ibiza en 3e division en 16e de finale de la Coupe du Roi ce mercredi. Grâce à un doublé d'Antoine Griezmann, le FC Barcelone devra redoubler d'efforts au prochain tour au Camp Nou contre une autre équipe de première division, Leganés donc, actuel 19e et avant-dernier de la Liga.
NBA, le championnat de basket nord-américain, LeBron James préside au nouveau succès des Lakers à Brooklyn.
Oui, les votes ont parlé. LeBron James a reçu le plus de voix pour la prochaine fête du basket Made in NBA qui se tiendra à Chicago le 2 février. Alors, pour fêter sa 16e participation d'affilée, il a conduit ses Lakers à une 36e victoire, 9 défaites cette saison, à une 36e victoire cette saison sur le parquet de Brooklyn, 128 à 113. Son triple-double, 27 points, 12 rebonds et 10 passes, le 91e de sa carrière, a été déterminant À ses côtés, Anthony Davis, lui aussi sélectionné pour le All-Star Game, a été moins saignant que la veille à New York avec 16 points et 11 rebonds tout de même. Comptant 33 626 points, LeBron James n'est plus qu'à 17 unités de la marque de l'ancienne gloire des Lakers.
Merci Bagassi.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Abdourahmane Dia, toujours en votre compagnie. À présent, les dossiers du jour. 24 janvier 2019, 24 janvier 2020, cela fait un an que Félix Tshisekedi a été investi président à l'issue de la première transition pacifique du pouvoir dans ce pays. C'est en toute modestie, mais dans un climat politique surchauffé, que la commémoration a eu lieu avec des querelles sur des éventuelles dissolutions du Parlement. Eddie Sango.
Calme à Kinshasa, mais manifestations, messes et autres prières dans certaines provinces. Le président Félix Tshisekedi, de retour à Kinshasa, après la tournée à l'étranger, a présidé les conseils du gouvernement. Leur est au bilan. Amnesty International estime que l'insécurité et l'impunité continuent d'entraver les progrès en matière de droits de l'homme. La réaction de la plateforme Cache avec Elvis Boulungo.
Le président de la République a fait déplacer la zone défensive de Tardéc. Aujourd'hui, le champ de commandement s'est installé là où nous avons aujourd'hui des soucis. Ça, c'est déjà un pas.
Sur le plan politique, l'actualité, c'est l'évocation la semaine dernière d'une possibilité de dissoudre les parlements. Les comités laïcs des coordination exige qu'elle soit faite. Écoutons le porte-parole Hervé Diakessé du CLC, la coordination laïque.
Parce qu'aucun accord particulier, aucun regroupement politique ou aucun arrangement ne peut se prévaloir d'être au-dessus de la Constitution dont le chef de l'État est le garant. Pour ce faire, il lui est demandé urgemment déjà d'inviter les forces vives autour d'un dialogue qui ne porte pas sur le partage des postes ou des responsabilités, mais sur les réformes nécessaires, notamment de la CENI et de la Cour constitutionnelle, en vue d'éviter les crises post-électorales à répétition que nous connaissons. Et aussi, face à la léthargie, à l'inanition de la nation, qui est incarnée par une assemblée nationale dont les conditions de mise en place sont plus que douteuses, l'initiative qu'il a prise des dissolutions en cas de crise est la bienvenue et nous ne pouvons encourager dans ce sens parce que avec cette Assemblée, aucune réforme sérieuse ne pourra être mise en place puisqu'elle a toujours envoyé des signaux de persistance en fait de forces réactionnaires et d'absence d'avancée démocratique. Par ailleurs, face aux questions de corruption et d'impunité, il est plus que temps que les chefs de l'État convoquent les États généraux de la lutte contre la corruption et les pillages des ressources naturelles, qu'ils mettent en place l'Agence nationale de lutte contre la corruption, un parquet financier pour que cesse l'impunité.
Le Cache de son côté met en garde les FCC, mais estime que la coalition tient pour l'heure. Elvis Boulungo.
Et aujourd'hui, le président de la République, celui qui est en train de se dire, croit encore que c'est possible que nous puissions avancer avec les partenaires du FCC. Pour autant, le dernier comprenne que nous avons un chef de l'État qui a gagné les élections, présidentielles, et nous avons une majorité. Et le président de la République est compétent pour pouvoir dissoudre cette assemblée s'il y a des empiètements qui empêcheraient de réaliser son action politique.
Lors de sa rencontre avec la diaspora congolaise à Londres, Félix Tshisekedi a appelé ses compatriotes à la patience avant de voir se réaliser toutes ses promesses.
Restez branchés sur VOA Afrique, à Goma, sur 96.2 FM.
Au Mali, le haut représentant du chef de l'État pour le centre du Mali est prêt à discuter avec des chefs djihadistes. Les émissaires ont été envoyés aux chefs djihadistes Iyad Gali et Amadou Koufa. John Kounda Traoré l'a annoncé hier. L'ancien président de la transition au Mali a rappelé les principales missions qui sont confiées à sa structure, dont l'instauration et le maintien d'un climat de confiance entre toutes les communautés du centre. Kassim Traoré, pour plus de détails.
Faciliter les échanges intracommunautaires, mettre en œuvre une stratégie globale axée sur la protection des civils, la réduction des violences intercommunautaires au centre, ce sont entre autres missions confiées au haut représentant du chef de l'État pour le centre du Mali. Professeur Diankunda Traoré a dévoilé son plan de travail devant la presse avant de rencontrer les autres personnes.
D'abord avec les diplomates, les organisations internationales, oui. Le gouvernement, parce que le message ne sera pas tout à fait le même. Il y aura déjà des choses précises qui seront discutées entre nous. Et puis ensuite, par la société civile, les partis politiques, les différentes associations, pour vraiment être sûr que nous partageons les mêmes approches de la résolution de cette question-là. Et bon, ensuite, je me rendrai à Mopti, qui est une des régions principales du centre, où je vais certainement séjourner assez longtemps.
Pour atteindre ses objectifs, Diankunda Traoré annonce qu'il va dialoguer avec tout le monde, y compris Amadou Koufa et Iyad Agali.
Nous sommes prêts à lancer les passerelles pour le dialogue avec tout le monde. Hein. Vous savez, tout conflit se termine par le dialogue. Il faut à un moment donné s'asseoir sur une table et discuter. Alors si on peut économiser des vies humaines et des violences gratuites, pourquoi pas? On essaie le dialogue. Avec certains, ça marchera tout de suite. Avec d'autres, ça marchera après. Personnellement, j'ai envoyé des émissaires en direction de Koufa et en direction d'Iyad pour leur dire que bon, j'étais disposé à discuter avec eux et à parler avec eux. Donc, à mon niveau, il n'y a aucune exclusive.
Dialoguer avec Amadou Koufa et Iyad Agali, le journaliste Django Koulibaly n'y voit aucun inconvénient.
Et ça a été dit à plusieurs fois, plusieurs occasions, par des Maliens, il faut nécessairement négocier avec Amadou Koufa et Iyad Agali. Donc si le haut représentant du chef de l'État et pour les régions du Nord est aussi sur cette lancée-là, je pense que c'est une très bonne chose. Lui, il doit faire en sorte que ça puisse aboutir et qu'il y ait enfin la paix au Mali.
Dans un État laïque, prendre langue avec ceux qui parlent de l'application de la loi islamique ou charia pose problème.
Pour moi, négocier avec Iyad ou Koufa n'est pas une mauvaise chose, mais il faut tenir compte qu'on est dans un état laïque. Je veux dire, quant à l'application de la charia, il faudra tenir compte des autres religions. Diankunda doit le savoir aussi.
Dialoguer avec Amadou Koufa et Iyad Agali est l'une des recommandations du dialogue national inclusif. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Au Tchad, les usagers des services publics devraient faire face à moins de tracasseries pour se faire établir des documents administratifs. Le gouvernement vient de créer une agence nationale de titres sécurisés qui s'occupe désormais de l'enregistrement des actes d'état civil, des cartes d'identité, des passeports informatisés et bien d'autres documents administratifs. André Kolmajingar, correspondant de VOA Afrique, fait le point de N'Djamena.
Créé en mars 2016, il a fallu 4 ans après pour que l'Agence nationale des titres sécurisés soit une réalité. Elle a pour mission de répondre aux besoins de l'administration en matière d'identification des personnes. D'un coût estimé à plus de 16 milliards de francs CFA, cette technologie permet de constituer les registres d'état civil en collectant, sécurisant et protégeant les données biométriques des individus vivant sur le territoire tchadien et ceux de la diaspora. Pour éviter désormais la falsification, un numéro national d'identification sera attribué à chaque personne. 11 centres sont créés à travers le territoire et les données d'identification sont mises en réseau dans un système informatisé. Foyata Mundaye est le directeur général de l'Agence nationale de titres sécurisés.
Les éléments biométriques sont les reconnaissances faciales et les empreintes digitales. À partir de ces éléments, eh bien, nous pensons que l'identité de la personne sera fixée de façon plus précise et sans aucun risque de falsification.
Le président de la dynamique citoyenne pour la protection des droits du consommateur, Moussa Mahamat Mahadi, est pessimiste. Il craint que cette agence ne soit une coquille vide.
Nous avons émis des réserves. Cela voudrait dire que ces agences-là, on avait vu à ceux, mais par la suite, ce sont les parents qui gèrent, par la suite, ce sont les amis qui gèrent, sans une orthodoxie. Donc, cette gestion calamiteuse de la chose publique ne nous donne pas vraiment le droit de se réjouir, parce que c'est quelque chose de très éphémère.
En 2018, le Tchad est cité parmi les pays dont ses ressortissants ont été interdits de visa pour se rendre aux États-Unis parce que les passeports tchadiens se trouveraient entre les mains des personnes suspectes. Pour le ministre en charge de la sécurité publique, Mohamed Abali Salah, la création de cette agence permettra de corriger cette lacune.
À travers l'ANAC, désormais les Tchadiens ont l'un des meilleurs documents d'identité de voyage du monde, répondant aux standards internationaux et constituent des ressources de l'économie numérique.
Pour Narma Diseline, membre de la coalition Trousse et Trou, une organisation de la société civile, si la police n'a pas pu délivrer des documents de voyage fiables et sécurisés, cette agence ne fera pas mieux.
C'est une manière de braver les institutions publiques et toutes les données des citoyens tchadiens dans les mains des individus qu'on ne connaît ni tête ni queue. On s'est battu pour arracher ce domaine en son temps de Sogec pour le rétrocéder à l'État. Donc c'est l'État qui n'a plus de moyens, qui est incompétent jusqu'à ce qu'une autre société puisse revenir encore reprendre vraiment. Je ne sais pas comment exprimer mon désarroi.
À en croire aux autorités tchadiennes, l'Agence nationale de titres sécurisés a une capacité de production de 15 000 enrôlements, 150 passeports et plus de 5000 cartes d'identité par jour. André Kodnuma Djingar Ndjamena pour VO Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos. Et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Ici aux États-Unis, les démocrates ont martelé hier devant les sénateurs que le président Donald Trump avait abusé de manière flagrante des pouvoirs de la présidence. Selon l'accusation, il a commis des crimes et délits graves qui nécessitent sa destitution. Dans leur plaidoirie, les procureurs démocrates ont souligné que le blocage de l'aide militaire à l'Ukraine par Trump pour ses propres intérêts politiques était l'infraction la plus grave qu'un président puisse commettre. Le point avec Lionel Gaïma.
Le troisième jour de ce procès a été centré sur un seul argument. Aucun président n'est au-dessus de la loi. Gerald Nadler, représentant démocrate et président de la commission judiciaire de la Chambre.
La Constitution n'est pas un pacte de suicide. Elle ne nous laisse pas otages de présidents qui abusent de leur pouvoir de manière flagrante, menaçant notre sécurité et notre
Nadler a franchi le pas après un avertissement du juge John Roberts, qui, plus tôt dans la semaine, avait appelé les deux parties à surveiller le ton. John Malcolm, de la Fondation Heritage, un think tank conservateur basé à Washington.
La mise en accusation est un remède dramatique. Ce serait vraiment dommage que ce remède drastique devienne subitement un outil politique partisan, une arme pour poursuivre un président dont nous n'aimons pas les politiques ou la personnalité.
Mais les démocrates soutiennent qu'ils ont présenté des arguments si solides que les avocats du président commenceront leur défense samedi avec un désavantage. Chuck Schumer, leader de la minorité au Sénat.
À ce stade, je ne sais pas comment la défense du président, aussi mal préparée et confuse qu'elle l'a été, et s'en mêlant dans des théories de complot, pourra le blanchir.
Pour les démocrates, une théorie du complot tourne autour des actions de l'ancien vice-président Joe Biden en Ukraine et ne devrait pas nécessiter son témoignage au procès. Sylvia Garcia, représentante démocrate.
Vice-président Biden followed.
Le vice-président Biden a suivi la politique officielle des États-Unis. C'est tout à fait le contraire de ce qu'a fait le président Trump. Il a poussé l'Ukraine à ouvrir une enquête sans fondement avec laquelle personne n'est d'accord. Ce n'est pas du tout la politique américaine et c'était pour son propre profit.
Les républicains, de leur côté, affirment que c'était une erreur stratégique d'évoquer un rival potentiel aux élections de 2020 et l'implication de son fils Hunter Biden dans la compagnie de gaz ukrainienne Burisma. Josh Hawley, sénateur républicain.
J'étais surpris de voir qu'on mette Joe Biden au centre de cette présentation. Si on doit appeler des témoins, je pense qu'il est clair maintenant qu'on doit appeler Hunter Biden et son père Joe Biden.
Les alliés de Trump estiment que les actions du président en rapport avec le dossier ukrainien ne justifient pas sa destitution, mais mérite plutôt une célébration. Lindsey Graham, sénateur réputé proche du président américain.
Ils font valoir que le gel temporaire de l'aide américaine a provoqué l'effondrement de l'armée ukrainienne et la mort des gens. Mais rien ne saurait être plus éloigné de la vérité. Ils ont obtenu plus d'aide de l'administration Trump que de l'administration Obama.
Ce vendredi est le dernier jour de plaidoirie des démocrates. La défense entamera la présentation de ses arguments demain.
Voilà, Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À la mise en onde de Lionel Gaïma, à la console Aiden Oudko, présentation Abdourahman Dia. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. Au revoir.
Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM. Raga FM, Kinshasa. Soleil FM, Conakry. 92.3 FM, Radio Wentanga. Wayegouya, Burkina Faso. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur Onde Courte. Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique.
VOA Afrique. Les infos.